Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Dans cette nouvelle émission, je vous propose de pénétrer dans les confidences sur la musique d'Igor Stravinsky, et plus précisément à travers un ouvrage qui rassemble les textes du compositeur et une sélection d'interviews d'avant 1940. Cet ouvrage complète aujourd'hui la connaissance de la place qu'a occupée Stravinsky dans les débats de la vie musicale de l'entre-deux-guerres. Ce florilège révèle aussi plus clairement qu'ailleurs la nature et la fonction du verbe chez Stravinsky. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Igor Stravinsky à travers ses mots, ses pensées, ses observations, ses regards sur la musique. Mais pour l'instant, voici Parole d'auteur, Parole de compositeur avec Josie Josserand.
Regardez les gens courir affairés dans les rues. Ils ne regardent ni à droite, ni à gauche, l'air préoccupé, les yeux fixés à terre comme des chiens. Ils foncent tout droit, mais toujours sans regarder devant eux, car ils font le trajet, connu à l'avance machinalement. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est pareil. L'homme moderne, universel, c'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps. Il est prisonnier de la nécessité. Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas non plus que, dans le fond, c'est l'utile qui est peut-être un poids inutile, accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots. Un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas ni ne sourient, un pays sans esprit, où il n'y a pas l'humour, où il n'y a pas de rire, il y a la colère et la haine. Eugène Ionesco, dramaturge et écrivain.
Des paroles de Ionesco pour justement nous introduire dans celle d'Igor Stravinsky, dans ses pensées, dans sa manière de regarder la musique et aussi d'écrire la musique. C'est un petit peu ce chemin que nous vous proposons de suivre et d'entreprendre à travers des textes choisis, des lettres aussi d'Igor Stravinsky. Et nous commençons justement à Comédia le 6 avril 1914. Monteux nous donnait le sacre du printemps. Je renonce à entreprendre la description de la foule envahissant le casino de Paris, arrêtant toute circulation rue de Clichy et inquiétant les promeneurs de la place de la Trinité. Ce fut une ruée. L'immense nef était battue par une marée humaine et les promenoirs avaient perdu tout droit à ce titre prometteur. L'exécution fut splendide. Monteux et son admirable orchestre ont fait des miracles. Avant de quitter Paris, Stravinsky, enthousiasmé, tint à écrire séance tenante au courageux chef d'orchestre la lettre suivante qu'il m'a autorisée à rendre publique. Mon cher Monteux, je suis heureux de pouvoir vous donner ici l'impression que j'emporte de votre exécution du Sacre du Printemps. Vous dire à quelle a été excellente n'est pas suffisant, car cet éloge vous est dû depuis la dernière saison russe. Tout le monde a pu apprécier comme moi votre zèle et votre probité envers les œuvres d'époque et de tendances variées que vous avez eu l'occasion d'y défendre. Mais aujourd'hui, je suis touché de vous voir mettre spontanément votre maîtrise dévouée au service des œuvres qui, même mal accueillies, vous semblent représenter un effort artistique. Et cela volontairement, sans crainte des critiques que la réaction vous opposera peut-être ouvertement. Je vois aussi la nécessité de vous exprimer devant l'exécution si artistique de mes œuvres, non seulement ma personnelle reconnaissance, mais celle de mes confrères français chez qui je constate un souci d'effort parallèle. J'attache la plus grande importance à la collaboration dévouée et attentive des remarquables artistes de l'orchestre qui vous secondent si intelligemment dans l'interprétation d'œuvres dont je reconnais bien moi-même la grande difficulté. Mais n'est-ce pas précisément parce que je considère tous les instrumentistes comme ayant une importance égale que je suis entraîné à écrire pour chacun d'eux de la musique difficile. Encore une fois, merci pour la plus belle exécution que je n'ai jamais eue du Sacre du printemps, Igor Stravinsky.
À Saint-Pétersbourg pour visiter mes proches, que je n'ai pas vus depuis déjà 2 ans. Cela concerne mes négociations avec la direction des théâtres impériaux au sujet de la présentation de mes ballets sur la scène du théâtre Mariinsky. Mais il est encore prématuré d'en parler, puisque, selon le contrat que j'ai conclu avec Diaghilev, je ne peux à l'heure actuelle proposer à personne d'autre qu'à lui les droits sur la mise en scène de mes ballets. J'ai commencé à m'occuper de compositions tout à fait par hasard, à la fin de mes études à l'université de Heidelberg. Ma rencontre avec Feu Rimsky-Korsakov a influencé mes débuts de compositeur. Il m'a donné la première impulsion dans cette direction et a été mon professeur de composition. Je me suis passionnée pour le sujet et au bout de 2 ans, je lui ai présenté ma première symphonie. En général, pour une raison ou pour une autre, je suis attirée par la musique de ballet, où j'espère créer un nouveau style. Je viens de terminer un mystère intitulé « Le Sacre du printemps », qui est divisé en 2 parties. 1. L'adoration de la terre. 2. Le sacrifice. J'ai élaboré le livret scénique de ce mystère en compagnie du peintre Nicolas Roric. Pourtant, j'aurais du mal à vous en expliquer la teneur, puisque ce mystère n'a pour ainsi dire pas de sujet, mais qu'il s'agit seulement d'un schéma de danse ou d'une pensée de danse scénarisée. Comment est-ce que je me représente le véritable ballet classique ? Dans l'ensemble, je suis partisan de ce que l'on appelle la choréodrame, qui doit devenir le type même du ballet contemporain. La première représentation de mon mystère, le Sacre du printemps, aura lieu à Paris, dans un magnifique théâtre, à l'heure actuelle, encore en construction. À mon départ de Saint-Pétersbourg, je rejoindrai ma propriété en Russie, puis Dresde, Leipzig, Budapest, Vienne, Paris, pour contrôler la mise en scène de mes ballets Petrouchka et l'Oiseau de feu. Pour la même raison, j'en partirai en mai et en juin à Londres, où doit avoir lieu cette année une grande saison russe qui sera, nous l'espérons, un triomphe et une véritable fête de la musique russe. Igor Stravinsky.
Voilà, nous voyons donc Stravinsky nous évoquer les conditions, en tout cas, et l'origine de cette pièce qui fut très célèbre et qui est très célèbre aujourd'hui, créée en 1913, Le Sacre du printemps, et dont nous avons entendu un petit extrait tout à l'heure. Il était interprété par le San Francisco Symphony sous la direction de Michael Tilson Thomas, orchestre américain qui a réalisé l'intégrale justement de l'enregistrement des différents ballets d'Igor Stravinsky. Alors nous allons poursuivre ce chemin à travers justement les textes et aussi les lettres d'Igor Stravinsky. Et je vous propose justement d'aller un petit peu à travers un autre texte, une autre lettre, à la rencontre d'une des autres œuvres importantes d'Igor Stravinsky, Perséphone. Et il écrit ceci. Excelsior, 1er mai 1934. Je dois, puisqu'on m'a proposé d'écrire sur la musique de Perséphone, et que je n'ai guère le temps de le faire, attirer l'attention du public sur un mot qui contient tout un programme. Syllabe, entre guillemets, et ensuite le verbe syllaber. Là réside ma préoccupation principale. Dans la musique, qui est temps et ton réglé, par opposition au son confus qui est dans la nature, il y a toujours la syllabe. Entre elles, et le sens tout à fait général, le mot qui baigne l'œuvre, il y a le mot qui canalise la pensée éparse et fait aboutir le sens discursif. Or, le mot, plutôt qu'il ne l'aide, constitue pour le musicien un intermédiaire encombrant. Je ne voulais pour Perséphone que des syllabes, de belles, fortes syllabes, et puis une action. Dans ce désir, je me félicite d'avoir rencontré Gide, dont le texte, hautement poétique, mais libre de sursaut, devait me fournir une structure syllabique excellente. Car la musique n'est pas la pensée. On dit crescendo, on dit diminuendo. La musique vraiment musicle n'enfle ni ne décroît selon les températures de l'action. Je ne m'extériorise pas. J'entends tout autrement qu'on ne le pense le rôle de la musique. Elle nous est donnée uniquement pour mettre de l'ordre dans les choses. Passer d'un état anarchique et individualiste à un état réglé, parfaitement conscient et pourvu de garanties de vitalité et de durée. Ce qui est pour le propre de mon émotion consciente ne peut, pour les autres et même pour moi, être réfléchi à l'état de règle. Dès l'instant où l'on prend conscience de l'émotion, elle est déjà froide. Elle est comme la lave, elle devient un formalisme et l'on en fait des broches que l'on vend au pied du Vésuve. je crois devoir avertir le public que j'ai en horreur les effets orchestraux comme moyen d'embellissement et qu'il ne faut pas s'attendre à être ébloui par des sonorités séduisantes. J'ai depuis longtemps abandonné la futilité du brio. J'ai horreur de courtiser le public, cela me gêne. Que ceux qui font fonction de cette estime besogne, soit en composant des partitions, soit en dirigeant, s'y adonnent à satiété. La foule exige que l'artiste fasse sortir et exhibe ses entrailles. C'est cela que l'on prend pour la plus noble expression de l'art, la nommant personnalité, individualité, tempérament et autres titres du même acabit. J'ai usé de l'orchestre normal, des chœurs mixtes, des chœurs d'enfants. Comme soliste, il n'y a qu'une voix chantante, qui est celle de Mopolp, maître de cérémonie du culte de Déméter à Eulysses. C'est lui qui expose l'action et dirige le drame. Le rôle de Perséphone est mimé, parlé et dansé. Il est remarquable de voir combien ce paracatologène délicat s'accorde avec l'ensemble. Cette partition, telle qu'elle a été décrite, telle qu'elle doit rester dans les activités musicales de l'époque, fait un tout indissoluble avec les tendances affirmées à plusieurs reprises dans mes œuvres précédentes. Elle fait suite à Oedipus Rex, à la symphonie de psaume, au capriccio, au concerto pour violon et au duo concertant. Bref, à tout un acheminement où l'abstention du spectacle ne diminue en rien la vie autonome de l'œuvre. Perséphone, qui sera présentée le 30 avril 1934 par Madame Haïda Rubinstein et sa troupe au Grand Opéra de Paris, est la forme actuelle de cet acheminement. Toute chose sentie est vraie, est susceptible de donner des projections énormes. Ce ne sont pas des caprices de ma nature. Je suis sur un très sûr chemin. Ce n'est ni à discuter, ni à critiquer. L'on ne critique pas quelqu'un ou quelque chose en état de fonction. Le nez n'est pas fabriqué, le nez est. Ainsi mon art. Igor Stravinsky.
vagabonde à caresser les fleurs. Je t'écoute de tout mon cœur, chant du premier matin du monde. Voici que se fait si furtive la tiède caresse du jour, que l'âme la plus craintive s'abandonnerait à l'amour.
Celui qui se penche sur son calice, celui qui respire son ardeur, voit le monde inconnu des enfers.
Je te garde, tu m'attends toujours. Je te garde, ce que je te garde, avec ton amour. Ne t'approche pas de mes saisons, non, ne cueille pas cette fleur.
Celui qui se penche sur son calice, celui qui respire son ardeur, voit le monde inconnu des enfers.
Je vois sur des prés semés d'asphodèles, des ombres errer lentement. Elles vont, plaintives et fidèles. Je vois errer tout un peuple sans espérance, triste, inquiet, décoloré.
Therefore,
nymphes, mes sœurs, mes compagnes charmantes, comment pourrais-je avec vous désormais rire et chanter, insouciante, à présent que j'ai vu, à présent que je sais qu'un peuple insatisfait souffre et vit dans l'attente.
Vous êtes bien sur Tropic FM avec Résonance et nous venons d'entendre un extrait de Perséphone de Igor Stravinsky, interprété par le San Francisco Symphony sous la direction de Michael Tinson Thomas. Alors Perséphone, pour en dire quelques mots, se déroule en trois tableaux. Dans le premier, Perséphone ravie. Perséphone, fille de Déméter, déesse de la fertilité, est prévenue que quiconque respire le parfum du narcisse doit descendre dans les régions infernales. Mais par compassion, elle se rend aux enfers, y épouse Pluton et réconforte les ombres. Dans Perséphone aux enfers, les ombres demandent à Perséphone de leur parler de la terre au printemps. Puis Pluton l'appelle et le prêtre Eumolpus lui rappelle qu'elle est là pour régner sur les enfers et non pour témoigner de la pitié. Une bouchée de grenade que lui offre Mercure lui donne la nostalgie de la terre. Regardant la narcisse qu'elle a apportée, Perséphone voit la terre en proie à l'hiver et sa mère Déméter qui la cherche désespérément. Eumolpus la console en lui disant que Doméphon, enfant, apprendra aux humains à cultiver le sol et la ramènera sur terre pour être son épouse terrestre et la reine du printemps. Pour Stravinsky, Perséphone était aussi un retour au thème du sacre du printemps, un sacrifice pour reproduire le renouveau brutal et involontaire dans son premier chef-d'œuvre et dans celui-ci un acte volontaire, produit de la compassion et de l'amour. Perséphone est aussi le chant d'amour du compositeur à Vera de Bosset, qui devint Vera Stravinsky en 1940. Quelle que soit la tendresse ou la beauté qu'on puisse trouver dans ma musique, c'est ma pauvre réaction à ses qualités en elle.
Les Cahiers d'Art, 1932. Cher monsieur, que ces lignes vous remplacent le mot que vous me demandez pour les Cahiers d'Art à l'occasion de la prochaine exposition Picasso dont vous me parlez. Ne me sentant pas assez compétent pour me prononcer sur l'œuvre magnifique de mon grand contemporain, je préfère me borner à vous dire simplement mon immense admiration pour ce très grand peintre. Si j'admire quelque chose, je veux l'admirer intégralement, et c'est bien le cas pour Picasso. Je l'admire autant pour le présent et pour le passé que pour le futur. Alors je ne critique pas. Critiquer est le métier des critiques. Or, on ne sait que trop bien à quoi cela les mène. Ce n'est pas un secret. Cela les mène à embrouiller les choses, à supplanter l'enthousiasme par lequel et à retarder ainsi la compréhension des contemporains. Convenons que c'est un métier de méchant. Souvenez-vous seulement ce que Picasso répondit, il y a bien longtemps, au serpent de la fontaine. Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent à tête folle, plutôt que t'emporter de moi seulement le quart d'une obole. Tu te romprois toutes les dents. Je ne crains que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprit de dernier ordre, qui, n'étant bon à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents imprignent leur outrage sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous des reins d'acier, de diamant. Espérant que ces lignes trouveront dans vos cahiers un écho sympathique, car je sais l'admiration que, comme moi, vous portez à Picasso, je vous prie de trouver ici, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Igor Stravinsky.
Avec cette lettre adressée au Cahier des Arts, on voit aussi l'importance que justement Stravinsky Vis-à-vis des peintres, vis-à-vis des autres artistes aussi de son époque, et on voit cette admiration vis-à-vis de Picasso, et puis bien sûr collaboration qu'il y aura aussi également avec lui à plusieurs reprises. Alors nous poursuivons justement notre voyage à travers les pensées, les avis, les observations d'Igor Stravinsky, et notamment avec une lettre qui émane de Suisse, cette fois-ci, de Morges, le 11 décembre 1919. « Monsieur, j'ai bien reçu votre aimable lettre du 9 décembre et vous en remercie. Malheureusement, je ne saurais profiter de votre invitation de me prononcer sur ma musique sans trahir le principe que je vous expose plus loin et auquel je tiens énormément. J'ai toujours refusé à tout le monde de me prononcer publiquement, soit sur la musique d'autrui, soit sur la mienne. Laissant de côté la question de la musique d'autrui, qui ne nous intéresse pas pour le moment, je vous donne les raisons de mon refus de parler de ma propre musique. J'ai toujours pensé que la seule chose par laquelle un compositeur pourrait légalement convaincre son public, c'est bien par sa musique, et non par sa musique accompagnée d'explications, si utile lui semble-t-elle. Et s'il n'y parvient pas aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il y parvienne plus tard. L'histoire de la musique, et de l'art en général, nous l'enseigne d'ailleurs bien éloquemment. J'ai eu moi-même l'occasion de constater la justesse de cette affirmation plusieurs fois, et pour mes propres œuvres. Je pourrais citer comme exemple le cas trop connu du Sacre du Printemps. Inutile donc, à mon avis, de forcer le temps que prend le public pour s'accoutumer au nouveau langage, aux nouveaux moyens d'expression. Cette opération, l'accoutumance, qui doit se produire dans le grand public, lequel n'assimile la musique que quand il en a pris l'habitude, résultat, aucune fraîcheur de sensation musicale et l'inévitable danger d'y substituer les normes morales étant donné le vide que laisse cette absence de sensation. Cette opération, dis-je, ne saurait en aucun cas être remplacée par des explications qu'on lui fournirait sur cette musique. On n'y gagnerait rien, car il est impossible de faciliter l'oreille au moyen de guides. Ces guides, non seulement ne lui ajouteraient rien, mais enleveraient encore, aux personnes ayant des oreilles accessibles aux sensations fraîches, tout ce que la musique pourrait avoir de contact direct avec elle. Il faut que l'oreille, elle-même, soit susceptible d'en faire usage en dehors de toute accoutumance ou explication. Et c'est seulement alors que le résultat sera fécond. J'espère, monsieur, que vous comprendrez les raisons que je vous donne et que vous excuserez ma résolution de ne pas me prononcer sur ma musique. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Igor Stravinsky. Voilà, Stravinsky nous fait découvrir aussi des facettes un peu de sa personnalité au travers aussi de ses mots lâchés à travers certaines de ses lettres. Et je voudrais, avant que nous écoutions justement l'extrait d'une de ses très célèbres pièces, Petrouchka, entendre ce qu'il dit en quelques mots sur Petrouchka. Et il dit ceci. Chez Petrouchka, c'est précisément de ce tableau, composé par moi en premier lieu, qu'est sorti l'œuvre que vous connaissez sous le titre « Petrouchka », scène burlesque en 4 tableaux. J'écrivis cette scène à Lausanne, au début de l'automne 1910. J'avais en vue une œuvre orchestrale où le piano jouerait un rôle prépondérant, une sorte de concert Stück. En composant cette musique, j'avais nettement la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d'arpèges diaboliques, exaspère la patience de l'orchestre, lequel, à son tour, lui réplique par des fanfares menaçantes. Ce morceau burlesque achevé, il m'importait de lui donner un titre qui exprimerait en un seul mot le caractère de ma musique et, conséquemment, la figure de mon personnage. Je le cherchais longtemps. Et voilà qu'un beau jour, je sursautais de joie. Petrouchka, l'éternel et malheureux héros de toutes les foires et de tous les pays. C'était bien ça. Le titre était trouvé. Ce morceau devint par la suite le second tableau de mon ballet.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Tropic FM et avec Résonance. Nous venons d'entendre un extrait de Petrouchka d'Igor Stravinsky, interprété par le City of Birmingham Symphony Orchestra, placé sous la direction de Sir Simon Rattle. Et justement, nous évoquions dans la lettre d'Igor Stravinsky, il y a quelques instants, son séjour à Lausanne. Et justement, Diaghilev le rejoint à Lausanne et persuade le compositeur de remodeler l'œuvre pour en faire un ballet, centré sur les souffrances de Petrouchka, manipulé par le charlatan, et le rejet de ses avances amoureuses par la ballerine, qui préfère le prétentieux mais brutal mort, lequel finit par tuer Petrouchka. La scène finale, qui se passe lors de la fête de la Semaine Grasse à Saint-Pétersbourg, dans laquelle le spectre de Petrouchka apparaît sur le toit du petit théâtre du charlatan, est devenu presque aussi légendaire que les arpèges bitonales en ut et fa dièse majeur simultanément, que représente l'angoisse humaine de Petrouchka, enfermé dans sa cellule par le marionnettiste dans le deuxième tableau, où les rythmes exubérants et les répétitions mélodiques insistantes de la danse russe au point culminant du premier tableau, qui reçut une brillante chorégraphie de Michel Fokine pour la création parisienne triomphale le 13 juin 1911 avec Vaslav Nijinsky en Petrouchka.
L'intransigeant, 29 décembre 1937. La mort de Ravel ne m'a pas surpris. Je savais que depuis quelque temps la gravité de son mal inspirait les plus vives inquiétudes. Je savais aussi que c'était la nature même de ce mal qui arrêta sa production musicale. Il était pour moi un ami de longue date. Je l'ai connu lorsque je fis mon premier début avec l'Oiseau de feu, et je me souviens que c'était alors qu'il me joua les fragments de son merveilleux Daphnis qu'il était en train de composer. La France perd en lui un de ces grands musiciens dont le prestige est reconnu dans le monde entier. C'est à l'histoire qu'il appartiendra de lui assurer dans le domaine de la musique la plus glorieuse qu'il a su conquérir avec tant de courage et une si ferme conviction. Igor Stravinsky.
Vous êtes bien sur Tropic FM et avec Résonance, nous venons d'entendre un extrait de L'Oiseau de Feu, le final de L'Oiseau de Feu de Igor Stravinsky, interprété par le City of Birmingham Symphony Orchestra, placé sous la direction de Sir Simon Rattle. Et nous allons poursuivre justement, nous avons évoqué tout à l'heure la relation de Stravinsky avec Picasso. On vient d'entendre aussi le grand respect qu'il avait de nombreux compositeurs français. On a entendu là par rapport à la mort de Maurice Ravel, mais bien évidemment aussi avec Debussy par exemple. Revenons quand même aussi dans ses collaborations avec Diaghilev, et notamment dans une lettre de mars 1937. L'intérêt toujours croissant que le public américain manifeste pour l'art de la danse, le succès que trouvent auprès de lui les spectacles chorégraphiques de haute tenue artistique, ainsi que le talent et la science des chorégraphes et des exécutants, me fournissent l'occasion d'évoquer l'imposante figure d'un homme qui non seulement a puissamment contribué au rayonnement mondial de cet art, mais qui, par sa force animatrice, et sa débordante activité culturelle a élevé le prestige du ballet à une hauteur jusqu'alors insoupçonnée et créé dans l'art théâtral en général toute une époque qui sera pour toujours attachée à son nom. Je veux parler de mon défunt ami Serge Diaghilev. 19 ans d'étroite collaboration, d'affection et d'amitié réciproque me permettent de tracer de lui, avec plus de compétences, un portrait plus véridique que l'on ne fait, malheureusement certains auteurs qui l'ont à peine connu et dont l'impartialité est sujette à caution. C'est en automne 1909 que je fis sa connaissance, lorsqu'il s'adressa à moi pour me proposer de composer le ballet L'Oiseau de Feu. Certes, la prodigieuse activité qu'il avait déployée jusqu'alors à Saint-Pétersbourg dans le domaine de l'art en luttant avec acharnement contre l'obscurantisme et le provincialisme qui régnaient en Russie, en maître, les magnifiques résultats obtenus par ses admirables publications artistiques et ses brillantes expositions m'étaient connus depuis longtemps. Mais nos relations personnelles n'ont commencé qu'à cette date précise qui fut la commande de L'Oiseau de Feu. Habitant la même ville que lui, j'avais eu naturellement plus d'une occasion de faire sa connaissance. Mais je ne la recherchais pas. D'après ce que j'avais entendu dire sur son compte, je me le représentais comme un homme hautain, arrogant et snob. À vrai dire, quand je fis sa connaissance, je m'aperçus bien que cette réputation qu'on lui avait faite n'était pas tout à fait dénué de fondement. Tous ces traits, peu sympathiques dans un homme, on pouvait facilement les retrouver en lui. Mais il était loin de constituer l'essence de sa nature. C'était tout simplement une apparence qu'il croyait utile de se donner pour se défendre contre la bêtise et la goujaterie des gens et les tenir à distance. Mais jamais je ne l'ai vu mufle avec personne. Quelle que fût la classe à laquelle appartenaient les gens qu'il avait l'occasion de rencontrer, toujours il leur parlait en gentleman, ou plutôt, pour employer le terme russe, en barine, ce qui veut dire seigneur, car barine, il l'était de la tête aux pieds, elle est restée jusqu'à sa mort. Je pense que l'expression barine, barine russe, est la plus indiquée pour caractériser la nature de Diaghilev, expliquer toute son étonnante activité comme inspirateur, promoteur et animateur d'une longue série de créations artistiques telles que la revue Miss Irtsurtva, littéralement Monde de l'art, titre français Monde artistique. Les expositions d'art, l'admirable exposition historique de portraits au palais de Tauride à Saint-Pétersbourg, les concerts historiques russes à l'Opéra de Paris, les spectacles d'opéra russe, surtout ceux de Boris Godounov, donnés pour la première fois à l'Opéra de Paris en 1908, et finalement la création des ballets russes avec son répertoire qui lui assura la gloire mondiale. Car, en effet, ce n'est qu'en se représentant la nature du barine russe cultivé, tel qu'il existait en Russie autrefois, nature généreuse, puissante et fantasque, nature volontaire, riche et dans sa diversité et nourrie de profonds atavismes, que nous pouvons nous expliquer le caractère et l'originalité des créations de Diaghilev, si différentes de ce que sont généralement les entreprises artistiques. Car, en dehors de son intelligence, de sa culture, de son flair artistique tout à fait extraordinaire, de son enthousiasme sincère, débordant et contagieux, il possédait encore une volonté de faire, une ténacité et une résistance presque surhumaine, une passion fougueuse pour la lutte et le combat et une rare obsession à franchir les obstacles les plus insurmontables. En même temps, il était né pour commander et il savait se faire obéir, et cela sans violence, par le seul prestige de son autorité. Il y avait en lui la nature d'un despote éclairé, d'un véritable chef qui réussissait à entraîner les éléments les plus rebelles, en opérant tantôt par sa force de persuasion, tantôt par son charme et, surtout, par son amour passionné pour la cause qu'il servait et pour les idées qu'il voulait faire triompher. Ce qui lui attirait encore les cœurs de tous ceux qui travaillaient avec lui, c'était son complet désintéressement et l'absence de tout calcul personnel dans ses entreprises. On savait qu'en collaborant avec lui, on servait uniquement la cause de l'art. Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de ces confidences sur la musique d'Igor Stravinsky. Si vous désirez aller plus loin dans ces confidences, n'hésitez pas à vous plonger dans l'ouvrage de Valérie Dufour, Confidences sur la musique, propos recueillis, 1912-1939, dans lequel elle a réuni textes et entretiens choisis, tout cela aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, j'étais accompagné par Josie Josserand et Simon Deborne à la technique.
Une émission présentée par Alain Goudard.
Cette émission sera diffusée jeudi prochain, rediffusée plutôt jeudi prochain, de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée qu'est Radio Tropique, en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission. À très vite.